Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un fait, certaines personnes ne peuvent pas partir en vacances empêchées par l'âge, leur santé, leur travail ou des motifs économiques. Voilà ce que déclarait le 6 août dernier le pape François, comme pour expliquer pourquoi lui non plus n'a pas réellement pris de congé. Une manière une fois encore de se rendre solidaire des plus pauvres. Pourtant, si François a tout de même ralenti le rythme, le pape n'en a pas moins fait quelques déclarations disons fracassantes. Et la vie de l'église dans le monde, elle, vivant au rythme de celle des hommes, n'a guère pris de vacances. Tour d'horizon en cette rentrée de la vie de l'église pendant l'été. Pour cette émission de rentrée donc sur l'actualité de l'Église universelle, on retrouve le père Michel Dagra avec bonheur, professeur émérite de théologie. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez passé un bon été, Michel ?
Pas mal, oui.
Oui. Est-ce que mon petit doigt m'a dit que vous étiez parti dans la montagne ?
Ah, ça, c'est un tropisme contre lequel j'ai beaucoup de difficultés à lutter.
Alors, pas mal de choses à dire, même si le rythme de la vie de l'Église, en tout cas à Rome, a quelque peu ralenti, celle du Saint-Siège, puisque même les employés du Saint-Siège quand même ont le droit à des vacances. Et on va commencer par une déclaration qui a fait beaucoup de bruit en cette fin d'été du pape François, à l'occasion donc de la publication le lundi 21 août du message du pape pour la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié, qui sera célébrée le 14 janvier prochain, message traditionnel, dans lequel le pape François parle en fait de la situation des migrants. Alors avant de parler de la phrase polémique, je citerai juste cette citation en introduction. Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ qui s'identifie à l'étranger de toute époque, accueilli ou rejeté, dit le pape. Notre réponse commune pourrait s'articuler autour de quatre verbes fondés sur les principes de la doctrine de l'Église: accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Avant qu'on parle de la phrase qui a fait un peu polémique, vous pouvez nous dire un mot de ce message traditionnel du pape. Chaque année, le pape adresse un certain nombre de messages, et il y a celui pour les migrants et les réfugiés de janvier. On imagine qu'en ce moment, ça prend un relief particulier.
Oui, tout à fait, oui. C'est un sujet qui ne vieillit pas. Et il est brûlant. Nous sommes confrontés régulièrement à cette question des étrangers et chez nous, et de la façon la plus concrète qui soit, puisque tout un tas de dispositions mobilisent un certain nombre de personnes, et de chrétiens entre autres, pour accueillir ces personnes et gérer au mieux leur situation dans le pays et leur intégration si on peut y parvenir. Voilà, donc c'est un sujet qui reste d'actualité et qui est promis à le demeurer encore pendant longtemps.
Alors, la phrase qui a fait polémique à propos de cette déclaration, c'est qu'en fait, le pape François a dit la chose suivante. Il dit qu'en fait, la sécurité des personnes doit primer en fait sur la sécurité des États pour quelque part comme clé de réponse ou de réflexion d'une réponse à une réflexion des chrétiens sur ce sujet.
C'est une conséquence. La première citation que vous avez donnée est la plus importante. Tout immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec le Christ qui s'identifie à l'étranger, de toute époque, accueilli ou rejeté. Je crois que si cette phrase a fait un peu polémique, j'en suis profondément étonné, car c'est une réplique pratiquement à la lettre d'une page de l'Évangile, d'un passage de l'Évangile relatif au jugement dernier. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, et la question de l'étranger d'ailleurs précise dans la liste, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous touchons là à l'originalité de la foi chrétienne, qui supprime la distance que toute religion établit entre un Dieu lointain et l'homme. Avec Dieu Emmanuel, en Jésus-Christ, cette distance est éliminée. La communion d'un Dieu plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, précise saint Augustin, n'empêche pas le respect de sa divinité, bien sûr, mais nous sommes là en plein dans l'originalité du ministère chrétien. Très difficile à vivre, puisque bien souvent nous passons notre temps à rétablir de nouveau cette distance, en éloignant Dieu, en nous tournant vers lui pour le supplier, alors que cette présence intime est affirmée dans l'Évangile et normalement devrait être prise en compte par la doctrine et la pratique chrétienne. Donc cette polémique, je comprends qu'on va en parler d'ailleurs, qu'elle soit soulevée, mais en toute rigueur de choses, nous ne sommes pas en présence d'une question morale de l'accueil des étrangers, mais avant cela, devant une question mystique de regard à porter sur l'être humain quel qu'il soit.
Alors j'ai retrouvé la phrase exacte, le principe de la centralité de la personne humaine nous oblige à toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité nationale.
C'est la conséquence. Quel est le regard portons-nous comme chrétiens sur la personne à partir du moment où nous avons foi en cette présence de Dieu au plus intime de l'homme ? Et on comprend que le regard sur la personne soit prioritaire. Mais comme la personne ne peut pas exister sans relation communautaire, les deux claviers de l'anthropologie chrétienne portent à la fois sur la personne et la communauté, sur les biens des personnes et sur le bien commun.
Alors, ça a donné lieu à un certain nombre de réactions. Alors, il y a eu des réactions extrêmement virulentes, en fait, accusant le pape François, quelque part, d'être d'une naïveté grave, disant que c'était, en fait, la porte ouverte aussi à une migration qui, elle, n'est pas voulue, qui est, entre autres, la migration d'un certain nombre de djihadistes. On sait qu'il y a un certain nombre de djihadistes qui vont revenir, même du front syrien. J'ai retrouvé un article du Monde à ce sujet qui datait, donc, du 11 novembre dernier, et qui, déjà, en 2016, donc, et qui déjà parlait du retour des djihadistes du front syrien, disant qu'il y avait à peu près plus de 700 personnes. J'ai même lu dans la Dépêche la semaine dernière que le RAID en fait avait participé à une interpellation à Cahors d'un ancien membre de l'État islamique qui était de retour en France. Bref, on peut pas.
Et ça, faisons peur aux gens. Qu'il y ait une prudence politique, administrative, policière, c'est tout à fait évident. On ne peut pas être les bras ballants devant le risque terroriste, mais que cela n'altère pas ce principe de fond d'un regard sur les personnes qui, au moins pour les chrétiens, on dépasse en cela l'humanisme auquel on collabore dans de multiples circonstances, un regard chrétien qui reconnaît la présence de Dieu en tout être humain. Alors il est reconnu, bafoué, rejeté, écrasé, célébré, mais sa présence est assurée. Et ce qu'on disait tout à l'heure de la personne, il faut le dire aussi de la communauté. Car l'Évangile nous dit encore, et c'est repris par des encycliques connues, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et dans la célébration eucharistique, on voit cette sorte de compound, de mode de présence réelle du Christ, qui passe par la parole, la présence de l'assemblée, le ministère du prêtre, la présence eucharistique, qui elle est sublime dans cet ensemble. Et la communion qui conclut. Au point, si vous voulez, il y a le rite, on y reviendra tout à l'heure, le rite est la réalisation de ce que nous croyons. Voilà, nous croyons comme chrétiens à cette intimité du Seigneur dans le cœur de chacun d'entre nous, et la communion eucharistique en est l'expérience la plus mystique et concrète possible.
Alors, pour donner quand même quelques arguments, on va dire, contre cette déclaration, puisque c'est quand même eu un écho très important, on ne peut pas passer à côté. Je citerai juste donc l'éditorial de Famille Chrétienne, alors qui, lui, en date du 29, éditorial qui est assez mesuré, qui laisse entendre en fait qu'il faut à la fois respecter le droit des États et en même temps le droit des personnes à migrer. Et puis, il y a eu une interview parue dans Famille Chrétienne de Philippe Devilliers, assez étonnante. Le Philippe Devilliers disant que le pape, quelque part, soutenait d'une certaine manière un vrai suicide de l'Occident. François inaugure une nouvelle théologie mondialiste mortifère pour l'Europe, et plus encore, cette phrase étonnante dans un tel journal, ce discours installe l'Église dans une proximité douteuse, avec les mondialistes du transhumanisme et de la marchandisation du monde qui veulent eux aussi la suppression des souverainetés des frontières et des États. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette interview ?
D'abord que Philippe Devilliers n'est pas un père de l'Église, et que des opinions tranchées comme cela, d'opposition en particulier aux enseignements de l'Église, ne datent pas d'aujourd'hui. Et Maurras faisait reproche à l'Église d'édulcorer la qualité de la race occidentale en accueillant les plus pauvres, les scrofuleux, les misérables, et en leur donnant autant de droits qu'aux autres. Donc c'est pas nouveau, hein. Moi, j'entends là un refrain connu, et ces éclaboussures sur l'œuvre et l'avancée de la barque de l'Église ne l'empêchent pas de continuer son chemin.
Alors, je citerai une autre, c'est pas une interview cette fois, c'est Laurent Stella Bourdillon, qui est, si je me trompe pas, aumônier des parlementaires, sur son blog, sur le site lavie.fr, parle de deux confusions dans toutes ces oppositions, en fait, oppositions à déclaration du pape François. Il dit que la première confusion, ça serait la réduction du christianisme à une identité culturelle et à un détournement de la foi au Christ dans un rapport de force culturelle et religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut entendre par ça, en fait?
Mais moi, j'entends bien ce propos. Il consonne fort bien avec le mystère de la Pentecôte. Il faut que le message de toujours s'exprime dans les langues et les cultures du jour. Donc, on a eu une expression avec ses ombres et ses lumières occidentales du mystère chrétien. Mais si la culture change, il faut que le langage qui exprime ce message de toujours se modifie aussi. La tradition n'est pas une répétition.
Et quel est le rapport avec la situation des migrants? Parce que j'ai l'impression que ce qu'il faut entendre davantage, c'est que le pape, il ne faut pas attendre du pape qu'il se fasse d'abord le défenseur d'une Europe chrétienne, en fait, disant que le royaume n'est pas...
Il n'a pas à défendre une Europe chrétienne, il a à défendre des personnes humaines, sacramentalement considérées comme présence porteur du mystère chrétien. Donc c'est cela qu'il fait. Et tout l'effort de l'Église, c'est proprement traditionnel, c'est d'accepter d'intégrer ce message dans les différentes cultures. Donc ça s'est fait en Occident, ça s'est fait en Orient. Bon, la propension de l'Occident à fonctionner de façon colonialiste a fait que ça ne s'est pas fait en Afrique, ou très mal, et pareil dans d'autres régions du monde, mais nous sommes sans cesse en présence de cette nécessité pentecostale de dire le message de toujours dans les langages et les cultures du jour.
Et alors, deuxième confusion que cite le père Stella Bourdillon, la confusion. On ne distingue plus la personne de sa religion. Tant que nous ne parviendrons pas à distinguer l'accueil inconditionnel des personnes et l'effort de réflexion critique sur les contenus des doctrines religieuses, nous continuerons à essentialiser les identités religieuses, l'humanité est première. Et un peu plus loin, si le pape veut prouver à l'Europe le pape François veut prouver à l'Europe qu'elle conserve quelque chose de son dynamisme évangélique.
C'est tout à fait exact.
Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui ont quand même du mal à entendre ce genre de déclaration et
Moi-même, des fois, ça m'est difficile. Je suis marqué par ma culture, mon éducation, mon expérience et tout ça. Mais nous sommes toutes et tous invités à revenir à une distinction essentielle entre les personnes et la manière dont elles vivent, entre les personnes et ce qu'elles disent, entre les personnes et ce qu'elles font. Voilà. Au cœur de ces expressions existentielles des personnes humaines, il y a la personne humaine, irréductible à sa manière de vivre, qui s'exprime, c'est collé ensemble, c'est très difficile à faire un partage et une distinction, mais cette distinction est première. On peut dire à quelqu'un, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est différent de dire, tu es un menteur.
Mais qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence pour les migrants? Parce que derrière ça, en fait, il y a la peur d'une islamisation d'une partie de la France, et en fait, c'est un peu le cas,
on peut avoir peur.
C'est une minorité grandissante.
Travailler contre une islamisation grandissante est une chose, respecter les gens qui se réfèrent à cet islam est autre chose. Il faut distinguer, ça ne démobilise pas par rapport à un travail de résistance à un impérialisme quel qu'il soit, islamiste en l'occurrence, ça c'est énergiquement, on a lutté contre notre tradition est une tradition de lutte contre les impérialismes, qu'ils soient nazis, communistes, islamistes, peut-être même dans certains coins chrétiens, le christianisme, tous les ismes sont vraiment à questionner, mais derrière toutes ces banderoles, tous ces étendards, il y a des personnes humaines. Et là, il faut arriver à reconnaître, c'est une question de regard, à reconnaître et à respecter les personnes humaines, quitte à travailler, parfois énergiquement, à les libérer des idéologies qui les oppriment.
Je finirai cette partie en continuant de citer le père Stella Bourdillon. S'il appartient aux responsables politiques de gérer la sécurité des États face à l'évidente période de violence aveugle du terrorisme fondamentaliste, il appartient au pape de regarder ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, car l'horizon authentique de sa vie ne se voit pas dans la vie humaine.
C'est tout à fait ça.
Mais dans
la résurrection
du Christ. C'est
un bon résumé de ce que nous essayons de dire depuis tout à l'heure.
De ce que vous essayez de dire. Moi, je pose les questions. Mais il paraît que les questions des journalistes sont toujours orientées. La deuxième déclaration du pape François sur laquelle je voulais revenir, c'était une déclaration sur la liturgie. le 24 août dernier devant les responsables liturgiques, devant des responsables liturgiques italiens. Le pape François a parlé la réforme du Concile Vatican II comme d'une réforme irréversible. C'était à l'occasion d'un anniversaire, celui de la Constitution Sacrosanctum Concilium, bon fruit de l'arbre de l'Église, souligne-t-il. Avant qu'on parle de sa déclaration, qu'est-ce que vous diriez de Sacrosanctum Concilium?
C'est une constitution d'un concile œcuménique. Voilà, un concile œcuménique rassemble l'épiscopat du monde entier, et c'est donc une réplique du collège du collège apostolique initial. Et ce que produit un concile engage la foi des chrétiens. Pas forcément dans les détails, mais l'essentiel de ce qui est rappelé ou ce qui est dit, pour éclairer la foi des chrétiens sur les questions qui font difficulté. Pour le Vatican II, il n'y a pas de question particulière qui fait difficulté, donc il y a le brassage d'une généralité chrétienne. Eh bien, les constitutions dans un concile sont les documents majeurs. Il y en a quatre dans le Concile Vatican II, celle sur la liturgie, celle sur l'Église, une autre sur la révélation et une autre sur les rapports entre l'Église et le monde. Voilà. Parler de caractère irréversible de la réforme liturgique conciliaire, c'est à la limite enfoncer une porte ouverte. Chaque concile a produit des éclaircissements et des décisions qui font force de loi. On ne revient pas en arrière quand un concile s'est prononcé. On pourrait reprendre le slogan connu « Rome a parlé, la cause est entendue ». Et ces replis frileux sur des postures préalables sont à questionner. Et beaucoup de points de vue théologiques, bien sûr, la tradition de ce que n'est pas la polycopie de ce qui s'est passé avant, la tradition est vivante, on en parlait tout à l'heure, il s'agit de reprendre, de ne pas édulcorer le message de toujours dans des langages qui deviennent désuets, hein, ça c'est une première chose, et puis il y a des raisons certainement anthropologiques, sociologiques, parfois politiques, qui expliquent un certain nombre de retours en arrière.
La réforme liturgique est irréversible, donc a déclaré le pape François, disant un peu plus loin que la liturgie se doit d'être populaire et non cléricale, elle a vocation à être inclusive et non exclusive, créatrice de communion avec tous sans toutefois uniformiser. Mais le pape François dit aussi qu'il s'interroge, alors voilà que je ne retrouve pas ma citation, bravo, un peu plus tôt, c'est-à-dire le 4 mars dernier, il avait fait une déclaration déjà sur la liturgie et j'ai retrouvé cette citation à propos donc de la, comment dire, d'une demande en fait d'une liturgie plus traditionnelle, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut utiliser, de certains et entre autres de certains jeunes. J'essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, des personnes qui sont trop jeunes pour avoir vécu la liturgie préconciliaire mais qui la veulent quand même. Qu'est-ce que vous diriez, voilà, vous, votre réflexion là-dessus, quelle serait-elle, Michel?
La même que le pape, j'essaie de comprendre. Et j'imagine que dans le monde actuel, déstructuré de partout, des chrétiens, des séminaristes, des prêtres, des religieux cherchent des repères pour pouvoir s'accrocher à des structures protectrices et qui soutiennent en même temps. Et peut-être que le retour sur des postures antiques, antérieures, justifie cela. Mais il n'empêche que la liturgie, pour reprendre la liturgie, c'est une expérience mystique dans laquelle la tradition de l'Église recueille l'essentiel de ce qu'elle vit, je pense très précisément à l'Eucharistie, et se retrouver dans ce bain, c'est un bain, dans une immersion, c'est baptismal de l'Eucharistie, est au-delà de ce que l'on peut percevoir immédiatement de tel ou tel passage de la célébration, mais on s'imprègne d'une célébration de louange, de supplication, de présence, de communion, de mission. Et je crois que le pape, en rappelant que ça devait être populaire et non pas clérical, rappelle cela. Voilà. Et comment vous dire, je pense à un passage du Concile de Trente, qui est très, très estimé, à juste titre d'ailleurs, mais hélas, ils ne l'ont pas lu la plupart par les intégristes. Ce Concile de Trente.
Enfin, tout, il n'y a pas que les intégristes qui sont attachés au Concile de Trente.
Ah ben, j'y suis moi-même attaché, je ne pense pas être trop intégriste. Mais tout chrétien doit être attaché à l'enseignement des conciles œcuméniques, quels qu'ils soient. Eh bien, le Concile de Trente, dans le décret sur l'Eucharistie, écrit ceci: « L'Église a toujours eu le pouvoir de modifier les rites des sacrements. leur substance étant sauve, c'est-à-dire leur signification profonde, hein, comme dit le pape quelque part, que l'Eucharistie soit la célébration du sacrifice du Christ. Leur substance étant sauve, le pouvoir de modifier les rites et les sacrements en fonction des circonstances de temps et de lieu, pour le bien spirituel des fidèles et pour le respect des sacrements eux-mêmes. Il m'est arrivé de prendre cette citation et de la proposer en latin et en français à des gens qui avaient des préoccupations sur ces questions traditionnelles. Évidemment, je ne les ai jamais revus, parce que c'est clair, c'est clair. Et ça, c'est la tradition de l'Église. Ce qui fait qu'on a eu la messe en araméen, la première célébration de Jésus, puis on l'a trouvée en grec, puis on l'a trouvée en latin, puis on l'a trouvée en slavon, et puis on l'a trouvée en français, et puis l'essai de revenir en arrière chaque fois est très préoccupant. Voilà, c'est un déni de la Pentecôte.
On va faire une première pause musicale et puis après on vous retrouve pour continuer à balayer l'actualité de l'Église universelle. Entre autres, on va parler du voyage du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, Pietro Parolin, en Russie. On va parler de la situation au Venezuela et aux Philippines et des positions de l'Église dans ces deux pays. Cette émission Vivante Église ce matin, donc sur l'actualité de l'Église universelle en cette rentrée, émission mensuelle où on retrouve avec plaisir le père Michel Dagra, prêtre du diocèse de Toulouse et professeur émérite de théologie, et qui nous accompagne dans cette actualité de l'Église universelle. D'ailleurs, je le dis, je ne sais pas si je devrais, mais on va essayer de vous trouver un adjoint aussi peut-être pour avoir différentes voix pour commentaires de cette actualité de l'Église universelle, et je sais que vous y êtes évidemment pas du tout opposé. poser.
Au contraire.
Je voulais revenir donc sur le voyage donc du cardinal Pietro Parolin, donc secrétaire d'État du Saint-Siège, c'est-à-dire qu'en gros on dit que c'est le numéro 2, c'est un peu, si on devait prendre une image, c'est un peu le DG, on va dire, au Saint-Siège, celui qui est un peu aux affaires, quand le pape François serait le PDG, image très très grossière, et vous m'excuserez si certains la trouvent malvenue. Voilà, qui est donc allé en Russie pour rencontrer donc les autorités russes, le président Vladimir Poutine et puis le patriarche de Moscou, Kirill Ier. C'est un voyage historique. Voilà, puisque semble-t-il le dernier voyage daté, il datait de 1988, de Monseigneur Agostino Casarelli. Voilà, voyage, on va dire, très diplomatique, vu de loin. Le Vladimir Poutine a déclaré qu'en fait, il y avait entre le Saint-Siège et la Russie des valeurs humanitaires communes. Nous travaillons constamment à la mise en œuvre des accords conclus aussi. Il y a un accord qui a été signé à l'occasion de ce voyage au ministère russe des Affaires étrangères sur les dispenses de visas diplomatiques entre Moscou et le Vatican. Bref, vu de loin, il n'y a pas grand-chose, mais c'est un pas et une visite importante, je citerai juste, avant de vous poser ma première question, après cette introduction bien nécessaire, je dirais juste que le président Poutine lui s'est rendu à de nombreuses reprises, 5 reprises déjà, au Vatican ces dernières années, en 2000, 2003, 2007, puis 2013 et 2015 avec le pape François. Bref, l'heure est au réchauffement. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective un peu cette visite? Pourquoi est-ce qu'elle est si importante alors que quand on lit la presse, on a l'impression que il n'y a pas grand-chose?
C'est une question de très longue haleine, parce que le différent entre orientaux et occidentaux date de belle lurette. Hein. On parle d'un schisme qui a eu lieu en 1054, et c'est très juste, lequel d'ailleurs a été préparé de longue date. Il n'est pas arrivé comme un éclair dans un ciel bleu. Hein. C'était un schisme qui toucher à la fois l'image que l'on pouvait avoir de l'évêque de Rome dans l'Église universelle, donc sur l'autorité pontificale, puis des questions théologiques avec le filioque introduit par de force en quelque sorte par Charlemagne dans le symbole de Nicée.
Alors dites juste un mot de ce qu'est le filioque peut-être.
Ah ben non, ça je peux vous assurer que je ne veux pas dire un mot, parce que c'est une question théologique très difficile, très délicate, et c'est déjà pas mal de proclamer le symbole de Nicée-Constantinople dans certaines messes chantées, mais je mets au défi beaucoup de personnes de s'asseoir autour d'une table pour dire quelque chose de clair à ce sujet. La seule chose qu'on peut dire, qui est en arrière-fond, c'est une manière de proclamer l'unité des personnes divines. Voilà, un seul Dieu en trois personnes distinctes, c'est une façon de l'exprimer. Mais qui...
C'est le Père engendre le Fils.
Oui, voilà. Engendre le Fils. Mais engendrer, ce n'est pas du tout apprendre dans le sens de la génération humaine.
Bon, enfin, on va dire que ce n'est pas une mission de théologie, donc en tout cas, c'est une visite importante.
C'est important de remarquer qu'on a besoin d'expliquer des choses, de dire un minimum d'éclaircissement sur des choses particulièrement difficiles.
Parce que, enfin, donc vous dites
alors,
que c'est...
Donc, il y a eu ce schisme de 1054, mais là, c'est peut-être passé assez inaperçu dans le peuple chrétien, de part et d'autre du Bosphore, mais il y a eu un malheur considérable en 1204, lors d'une croisade avec le sac de Constantinople, où des chrétiens d'Occident ont massacré d'une façon la plus violente qui soit les chrétiens d'Orient et l'église de Sainte-Sophie baignée dans le sang. Donc ça, c'est une sorte de péché irrémissible qui traîne encore dans les consciences et qui est difficile à gommer. Donc puis s'ajoute à cela en plus d'autres éléments de contentieux, entre autres la question des églises de rite occidental catholique qui ont été données au temps de Staline aux églises orthodoxes. La restitution ne s'est pas faite de façon la plus limpide qui soit. Donc, puis des critiques de prosélytisme, tout ça. Bon,
mais alors, Michel, juste là, vous revenez en fait sur les contentieux, sur les objets en fait de ce différent historique. Mais ma question était plus politique, parce qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, là, le cardinal Pietro Parolin, il vient rencontrer les autorités russes autant que le patriarche Kirill Ier, et que ça signe en fait une proximité qui est pas toujours très comprise en France entre le Saint-Siège et le président Poutine, entre autres sur la situation ukrainienne ou syrienne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière
voilà, ça? Il faut comprendre que là où les chrétiens sont persécutés, ça fait chrétiens d'autres, hein, au nom de leur foi, le pape réagit. Voilà. Et donc, en Ukraine et en Orient, en Syrie, en Irak, tout ça, les chrétiens sont persécutés. Donc, la recherche d'appui pour lutter contre cette persécution est une recherche pontificale. Voilà. Et d'où un des points clés du rapprochement avec les orthodoxes porte là-dessus, la lutte contre la persécution. Mais ce n'est pas la seule chose. Il y a aussi l'œcuménisme qui permettrait de manifester aux yeux du monde une unité sur cette foi commune dans une présence du Christ au milieu des hommes. Hein. Un aspect missionnaire qui est sans cesse repris et qui fait partie d'une déclaration qui est passée un peu sous silence et qui a été signée entre Kirill et François La Havane.
Voilà, on va y revenir sur cette rencontre. Juste sur la question syrienne, j'avais une question. C'est que on peut se dire que le pape, ce n'est pas en fait le rôle du pape que de donner l'impression d'avoir un positionnement politique dans un conflit. C'est-à-dire qu'on a pu avoir l'impression à l'occasion du conflit syrien que d'une certaine manière le pape soutenait en fait l'intervention russe. Qu'est-ce que vous diriez de
non,
ce mot?
Le pape soutient la lutte contre la persécution. Il se trouve que si du côté russe il y a une action dans ce sens-là, eh bien il ne va pas être défavorable. Mais cette posture est classique et parfois critiquable d'ailleurs. Combien de fois l'Église a dû s'immiscer dans des affaires politiques en ayant le souci du salut des personnes humaines? Et le respect des choix religieux. On retrouvera cela tout à l'heure dans l'émission en parlant certainement des questions du Venezuela ou des Philippines. Mais on pourrait voir comment ça se passe dans les pays où il y a une défaillance politique. Je pense au Congo, à d'autres régions encore. L'Église devient le seul recours de défense des droits humains.
Et bien, quel rapport avec la crise syrienne là?
Eh bien, la défense des droits humains. Voilà, c'est le pape cherche partout où des dynamismes qui sont pour la défense des droits humains fonctionnent. Mais c'est ambigu, hein, je ne vais pas dire moi que la manière des Russes de bombarder les rues et les villes de Syrie est quelque chose de convenable, d'autant plus que toute guerre est affreuse et condamnable. Mais enfin, on cherche quelle est la voie, le chemin, même s'il est plein de pierre et de broussailles, qui permet d'avancer vers le respect des droits humains.
Alors, sur la rencontre donc de Kirill Ier, donc le patriarche de Moscou, et du pape François, qui était donc en acte du 12 février 2016, rencontre qui avait eu lieu à La Havane, à Cuba, on avait fait une émission là-dessus. C'est vrai que c'était un événement qui était, qui a pu passer inaperçu pour beaucoup. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être sur les points essentiels de cette rencontre, pour le coup vraiment historique, avant qu'on passe au Venezuela?
C'est d'abord, ça fait partie de ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une rencontre qui a été très longuement préparée, avec beaucoup de minutie, avec des circulations d'aller-retour, des documents. Je crois que chaque mot de cette déclaration a été pesé. Le lieu où elle s'est produite, c'est dans une salle de l'aéroport international de La Havane. On ne peut pas imaginer plus neutre, mais c'est aussi symbolique, parce que La Havane, quand même, a été sous l'aile de la Russie soviétique, mais parce que c'est aussi un carrefour de culture, que cette grande île des Caraïbes. Donc il y avait une volonté à la fois d'ouverture et de respect mutuel. Et je crois que le document qui a été signé à ce moment-là, qui a une portée, à mon avis, considérable, est intéressant comme...
Alors justement, quels étaient les points?
Les différents points sont
les quatre points voilà. Clés
d'abord,
que vous avez enlevés.
Il y a la volonté de manifester avec douceur et respect, notons bien les qualificatifs, l'espérance qui est en nous. Et cette phrase tirée de l'Évangile est tirée de la première lettre de Saint-Pierre. Et c'est quand même, ça aussi, assez symbolique. Puis il y a un appel contre les persécutions religieuses en Orient, contre la guerre civile, le chaos, les violences terroristes, ça rejoint ce dont on parlait à l'instant. Et en même temps, et souligner la même conception, une conception commune de la famille, comme chemin de sainteté, comme expérience de procréation et de fidélité, et comme ouverture. Il serait intéressant à ce propos de mettre en parallèle, c'est une invitation à quelques théologiens, de mettre en parallèle ce qui est dit dans cette déclaration et ce qui est proposé par la lettre apostolique post-synodale à Maurice et Tizia. Et puis un appel à collaborer fraternellement à l'annonce de l'Évangile. Voilà, pour témoigner ensemble, et on y revient, de la dignité de la personne. Et que ce témoignage d'engagement pour la dignité de la personne est comme aboutissement que le monde croit. C'est intéressant de voir que dans cette déclaration, une relation est faite entre la prédication de la foi et le respect des personnes humaines.
Alors j'avais quand même une dernière question ce voyage. C'est que, évidemment, ce qui était important dans ce voyage aussi, c'était toujours de travailler à l'unité des chrétiens. J'allais dire l'unité de l'Église, mais plutôt l'unité des chrétiens. Pourquoi faut-il faire ce distinguo entre unité peut-être des chrétiens et unité de l'Église? Et à quelle unité peut-on espérer, en fait, avec les orthodoxes, et particulièrement les orthodoxes russes? Il y a deux questions. Mais...
L'unité fait partie de la prière du Christ à son Père, hein, qu'il soit un, comme nous-mêmes sommes un. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, on devrait gloser cette expression, parce que l'unité en Dieu est une unité absolument profonde, fondamentale, substantielle, pourrions-nous dire, mais où la diversité fait partie du programme. Le Père et le Fils et l'Esprit sont des personnes distinctes. Donc si nous avons à répondre à cet appel du Christ et à réaliser une unité chrétienne aujourd'hui, elle intégrera inévitablement une diversité. Le chemin est de longue date, il a pris un tour beaucoup plus énergique, si je puis dire.
Depuis une cinquantaine d'années,
Même depuis plus, depuis le Père Couturier, on est au début du XXe siècle. Et bien, ce chemin, parfois, a des ralentissements, mais il continue, il se poursuit. Et je trouve personnellement remarquable ce travail de rencontre entre Kirill et François, car dans le chemin sur l'œcuménisme, c'est quand même une étape totalement neuve.
On va faire une deuxième pause et puis après on va retrouver pour continuer à parler de l'actualité de l'Église universelle, entre autres du Venezuela et des Philippines.
Capella.
Cette émission Vivante Église, ce matin donc, sur l'actualité de l'Église universelle avec, si vous nous prenez en cours de route, le père Michel Dagra, prêtre du diocèse de Toulouse, professeur émérite de théologie qui nous aide chaque mois, le premier mercredi de chaque mois, à décrypter l'actualité de l'Église universelle. Pour finir cette émission, Michel, on va voyager un petit peu, voyager dans des situations et des lieux un peu difficiles, en tout cas qui ont fait la une de l'actualité pendant cet été. Je vais commencer par le Venezuela. Le Venezuela, pour résumer très très brièvement la situation. Donc Nicolas Maduro, héritier de Hugo Chavez, est en train en fait d'installer une dictature. C'est en tout cas les mots d'Emmanuel Macron à l'adresse donc du Venezuela, à l'occasion donc d'une déclaration du président de la République, à l'occasion d'une intervention devant les ambassadeurs français réunis à Paris récemment. Puisque donc le 30 juillet dernier, une assemblée constituante a été élue au Venezuela à la demande de Nicolas Maduro, qui invalide en fait toutes les prérogatives du Parlement. Bref, la situation est de plus en plus terrible. Il y a 90% de la population qui manque de tout, et puis surtout toutes les libertés fondamentales qui sont en train d'être restreintes et de disparaître. Je citerai aussi la situation en introduction pour explication de cette situation de Luisa Ortega, qui est l'ex-procureur général du Venezuela, ancien soutien de Hugo Chavez, qui se désolidarise de Nicolas Maduro et qui là est en train de chercher l'asile politique à l'étranger. Et au milieu de ça, l'Église essaye de faire entendre sa voix dans un pays qui est en train de sombrer dans la dictature. Une situation terrible pour l'Église, en fait, qui doit avoir un sentiment d'impuissance effrayant.
Oui, c'est une situation terrible pour les Vénézuéliens, tout simplement. Hein. Donc l'Église se retrouve dans une situation connue, traditionnelle, si on peut dire, où elle va essayer de suppléer aux dégâts, lutter contre les dégâts possibles et même réels de cette dictature. Donc que fait-elle? Elle se présente, elle s'invite, elle se propose, voilà, elle se propose comme médiateur, comme médiatrice. Voilà. Et pourquoi? Parce que les libertés fondamentales ne sont pas respectées, parce que la nouvelle constitution, le projet de nouvelle constitution est une affaire de Maduro tout seul, et de ses sbires, il n'y a pas de parlement, et l'opposition est complètement déniée, et il y a une violence qui ne cesse de grandir.
Oui, il faut rappeler qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont été incarcérées, et qu'il y a évidemment des cas de torture et autres.
L'opposition est brimée, incarcérée, torturée. Donc cette posture de suppléance que propose l'Église, c'est une posture classique là où il y a un déni total de la dignité humaine.
Qu'est-ce que ça veut dire suppléance? Parce que l'Église ne peut pas suppléer en fait à un état de droit. Enfin,
oui, mais quand il n'y est plus, ou quand il devient totalement pervers.
C'est-à-dire que l'Église va organiser des élections pour
Qu'est-ce qui se passe actuellement au Congo, au ancien Zaïre, à la République du Congo? Bien, c'est l'Église qui devient le dernier recours contre un chaos politique particulièrement nocif pour la population. Eh bien, on se trouve dans un pays qui a en plus de tradition chrétienne, où il y a des évêques qui, pour le moment, ne sont pas en prison, au moins, j'espère. Eh bien, l'Église ne peut pas rester les bras ballants devant une affaire pareille.
Même s'il y a des cas de violence à l'adresse, semble-t-il, de prêtres là-bas. Donc, l'Église qui demande donc le respect de la Constitution de 1999, qui avait été promulguée par Hugo Chavez, qui est mort en 2013, la libération des prisonniers politiques, l'annonce d'un agenda d'élections à venir, et notamment celle des gouverneurs dont la date n'a toujours pas été fixée, et l'acceptation de l'aide humanitaire internationale.
Voilà.
Mais c'est mal parti. Je citerai le cardinal Jorge Urroso Savino, qui était interrogé au micro de Radio Vatican récemment, donc qui est l'archevêque de Caracas, qui dit « Il y a de nombreuses personnes détenues qui sont en train de beaucoup souffrir. Nous vivons une époque très compliquée et la crise empire. » Et parlant d'une situation, se disant extrêmement préoccupée. Quand un archevêque parle comme ça, c'est que a priori,
ça va très mal.
C'est gravissime.
Donc, mais l'Église ne peut pas être muette. Elle ne l'a pas été dans les années 30 par rapport au nazisme. Ça a même été la seule communication publique qui était faite contre lui avec l'encyclique écrite en allemand Mitbrennender-Sorge, eh bien l'Église devant des dénis profonds de l'humanité, de l'être humain, ne peut pas ne pas réagir. De même qu'elle a réagi avec un encyclique au milieu des sollicitudes, autant que je me souvienne, contre le nazisme, contre le communisme.
Et il en faut du courage parce qu'elle risque d'être persécutée aussi.
Quand l'encyclique dont je parlais a été lu le jour des rameaux par tous les prêtres à la demande du pape, il y en a beaucoup qui sont partis en déportation. C'est même parfois une question, ce qui peut être dit de Rome, depuis Rome, peut provoquer des persécutions et ça peut mettre des bémols dans les propositions pontificales.
Alors, on part d'une certaine manière un peu à l'autre bout de la planète, en tout cas de l'autre côté du Pacifique, aux Philippines. Aux Philippines a été élu donc en juin dernier un président qui s'appelle Rodrigo Duterte, appelé aussi Rudy Duterte, qui est donc avocat, élu le 30 juin 2016 et qui a été élu donc par un pays à 80% catholique, et qui a comme cheval de bataille, en tout cas l'un de ses chevals de bataille, la lutte contre la violence et entre autres contre les narcotrafiquants, et il aurait donné d'une certaine manière un blanc-seing aux violences aux policiers pour agir en toute impunité. Récemment, il a déclaré qu'il donnait l'ordre aux policiers de tuer les idiots qui résistent aux interpellations. Il y aurait eu presque 10 000 morts. Enfin, il y a des chiffres entre 3 500 et 10 000 personnes qui ont été exécutées. Là-dedans, il y aurait un certain nombre de narcotrafiquants, mais pas que. Et donc, l'Église se lève depuis comme un seul homme, demandant que cessent ces violences policières qualifiées de, en partie, arbitraires. Quelle est votre première réaction sur cette situation ?
C'est, à mon avis, un bon exemple du décalage culturel dans lequel nous pouvons nous trouver par rapport à d'autres régions du monde. Parce que ce Rodrigo Duterte, c'est un homme qui est truculent, qui a un vocabulaire devant lequel celui de Donald Trump serait celui d'un enfant de cœur. Il a été notamment des propos outranciers quand, pris dans un embouteillage entre sa maison et l'aéroport, il demande d'où vient ce bouchon. On lui dit « mais c'est le pape qui est venu ». Alors il a des pique-pendres sur le pape et même sur sa mère. Et ce n'est pas à l'antenne que je peux reproduire ce qu'il a dit. Donc il est très outrancier, mais pour l'opinion, il est celui qui lutte contre cette violence des narcotrafiquants. Et donc c'est quand même curieux de voir 80% des catholiques qui votent, enfin la population est 80% catholique, et tout ce monde vote pour cet homme. Un homme qui a dit des choses absolument ignobles. Quand en 1989, une missionnaire australienne a été violée, il a dit « mais j'aurais aimé être le premier à le faire ». Donc on est devant quelque chose d'absolument époustouflant. Et avec cela, une messe à Manille, avec la messe qui rassemble de toute l'histoire la population la plus nombreuse.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par cette remarque ?
Il y a un contraste qui est très difficile.
C'est-à-dire que c'est les catholiques qui l'ont élu et que...
Ben oui, mais en même temps, heureusement que les évêques réagissent, mais je ne suis pas sûr que l'opinion chrétienne suive le point de vue des évêques. Voilà, la peur de la violence donne place à la violence. C'est quand même assez troublant. Voilà.
Voilà, un jésuite Ben Nerbes qui est installé là-bas aurait dit la chose suivante. La situation est pour moi très différente malgré tout de la loi martiale décrétée en 1972 sous la dictature de Ferdinand Marcos. Les médias restent ouverts, personne n'a été jeté en prison pour avoir critiqué Rodrigo Duterte pour l'heure. Il n'y a pas d'impact dans la capitale, etc. etc.
Voilà, bref, enfin, les enfants des rues sont matraqués. Le pape d'ailleurs a eu une position très claire à ce sujet par rapport aux enfants des rues et des souffrances même, parce qu'ils ont pris en plus une tornade cyclonique qui a fait énormément de dégâts. Il y a eu des questions, le pape devant cela dit « Pourquoi Seigneur ?» Mais regardons le Christ, on est démunis. Il y a des situations devant lesquelles on est profondément démunis, on est devant le mystère après tout. Aux dégâts climatiques se posent aussi des dégâts sociaux et politiques, et on est là devant une situation qui, personnellement, me paraît très ambiguë et très difficile.
Voilà, il faut rappeler aussi la déclaration papale d'octobre 2016 à propos de la peine de mort. François, qui est le premier à exhorter donc tous les pays à abolir la peine de mort jusqu'à remettre en cause la prison à vie. Et le pape qui s'est engagé de manière très forte en s'exprimant à ce sujet devant le Congrès américain. Autre pays, autre situation, on revient en Europe, c'est la Belgique. Récemment, est paru un article dans le journal La Croix, c'était le 23 août dernier, une interview plutôt de frère René Stockmann, supérieur général des Frères de la Charité de Gand. Voilà, ce supérieur général qui rappelle à l'ordre en fait certains établissements de santé des Frères de la Charité qui sont installés en Belgique et qui se seraient déclarés en fait en faveur de l'euthanasie. Mmh. Alors il y a quatre points litigieux, je vais les citer, que cite ce frère. D'abord, ce texte ne fait plus du respect de la vie un absolu. Il met en fait au même niveau l'autonomie des malades et la relation thérapeutique. Ensuite, il fait de l'euthanasie un acte médical. Il permet d'une certaine... Et puis il permet que l'euthanasie soit pratiquée au sein de nos institutions. Je vais relire ma fiche parce que j'ai mal cité les quatre points. Toujours est-il qu'il y aurait des établissements de santé donc catholiques qui pratiqueraient des euthanasies en Belgique. Et donc là, Rome siffle.
Ah ben c'est pas Rome qui siffle d'abord, c'est le supérieur général. Et on le comprend parce que si on regarde l'histoire, les décisions officielles pour l'euthanasie, la première elle vient des nazis, puis ça a été les Pays-Bas, maintenant la Belgique. Hein, donc on est devant une propension de cette disposition qui est assez troublante. De toute façon, d'un point de vue...
Depuis 2002, c'est 14 753 personnes qui ont été euthanasiées en Belgique.
Voilà, mais il n'y en aurait que deux, c'est pareil. C'est pareil.
Et un mineur.
Voilà, en plus. Ceux qui sont... Le grand problème, c'est de toute façon un problème, mais ce sont des gens qui sont psychologiquement en mauvais état, mais qui ne sont pas en danger de mort. Donc, on peut faire une distinction avec ceux qui le sont, dont la maladie arrive à l'extrême. Donc la position de l'Église est très claire. La vie est sacrée, c'est un don, ça vient de Dieu. La vie et l'amour sont des choses que l'on reçoit, après on en devient responsable, on le gère, mais au point, à la racine, c'est donné. On n'a pas le droit d'en faire n'importe quoi. Voilà, tout repose là-dessus. Donc le supérieur
des
Frères de la Charité dit « Nous ne pouvons pas suivre les décisions de l'association pour laquelle on travaille. » Et il pense que tous ses frères vont s'aligner sur ce refus.
Voilà, en tout cas, il a dit « J'attends leur lettre de réponse à mes remarques. Ouais. » Merci beaucoup Michel Dagrat d'être venu pour cette émission de rentrée très rapidement.
Oui, juste un mot pour rappeler que le pape a dit quelque chose qui symboliquement est fort. Nous sommes d'un printemps, nous ne sommes pas les gens de l'automne.
Voilà, parmi les déclarations fortes du pape François, en tout cas, il faudra la rajouter dans la liste de ces phrases un peu parlantes. Nous sommes les hommes du printemps et non des hommes de l'automne. Merci beaucoup Michel Dagrat d'être venu au micro de Vivante Église. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.radioprésence.com ou sur notre page Facebook. Retrouvez les podcasts évidemment. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.